Et il est 18h30 à Paris, 17h30 en temps universel. C'est l'heure du débat du jour avec Romain Ozouy. Bonsoir Romain.
Bonsoir Véronique, et on va parler de la fatigue informationnelle ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozouy.
Et on en parle à l'occasion de la semaine de la presse et des médias dans l'école qui s'est ouverte ce lundi en France. Alors la fatigue informationnelle, c'est trop plein d'actualité face à une actualité qui est toujours plus anxiogène. Entre deux guerres en Ukraine et à Gaza qui se poursuivent et les nombreuses interrogations et inquiétudes générées par le début de mandat du président américain Donald Trump. Servez tout cela via les réseaux sociaux et pour beaucoup, la coupe est pleine. Notre débat ce soir, y a-t-il une fatigue informationnelle? Sommes-nous face à un phénomène tangible, comment cela se manifeste-t-il et quelles questions cela soulève-t-il? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Gaënaëlle Gault, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale de l'Observatoire Société et Consommation, co-autrice de cet ouvrage « Quand l'info épuise ». Édition de l'Aube, Fondation Jean Jaurès. Face à vous, Fabien Verceau, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste au Média 2050 Now, qui est un média 100% numérique sur les enjeux environnementaux, média diffusé sur Instagram, TikTok et YouTube, et qui propose des vidéos de décryptage des enjeux et des solutions positives. Et notre troisième invité est en ligne avec nous, Anne Cordier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur des universités en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine, autrice de l'ouvrage « Grandir informé ». Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Gaënaëlle Gault, pour débuter, quel est le rapport des Français à l'actualité, avant d'évoquer la fatigue informationnelle et de voir s'il y en a une ou pas? Est-ce que les Français s'informent de plus en plus ou de moins en moins?
Alors le rapport des Français, ben justement, le rapport des Français à l'information, il est compliqué. On avait vu ça, et c'est pour ça qu'on a mené cette grande enquête en 2022. On ne cherchait pas forcément ce sujet à l'Obsoco, mais on réalise beaucoup d'enquêtes ethnographiques, qualitatives. Et puis, on voyait de plus en plus en fait, de Français, spontanément, sans qu'on les ait interrogés sur le sujet, nous dire « mon rapport à l'information, il est compliqué ». Ou nous dire « là, j'arrête de m'informer ». Là, vraiment, je coupe des comportements de la sorte. Donc, on a voulu, en fait, avec David Medioni, mesurer, quantifier ça. Mmh. Et en 2022, on a mené une première enquête et en utilisant aussi des notions et une façon de penser les choses issues un peu de ce que Edgar Morin avait mis sur la table il y a quelques années, qui était la notion de nuage informationnel. C'est le fait d'être dans ce nuage-là, on voit bien l'image.
Donc c'est pas nouveau.
Et donc c'était pas nouveau. Sauf que entre-temps, comme vous le disiez, il y a les réseaux sociaux, il y a les chaînes d'info continues, il y a un certain nombre, en fait, une fragmentation des canaux d'information. Et une information qui a changé aussi de nature parce qu'on peut aussi être acteur de l'information, ça va plus seulement dans un sens. Et puis une économie aussi des médias qui s'est invitée et où il y a véritablement on cherche à aussi capter de plus en plus une attention qui, on est dans une société de l'information, mais notre attention, c'est un peu la ressource rare de cette société de l'information. Donc on cherche à la capter de plus en plus. Ce qui fait que, voilà, il y a tout ça. Et en regardant un peu comment les Français se comportaient par rapport à tout ça, on s'est aperçu que, de fait, et on a pu quantifier, en fait, cette fatigue informationnelle, plus d'un Français sur deux qui se disait fatigué, un tiers très fatigué. Et ça, en fait, c'était il y a 2 ans. Mais 2 ans plus tard, on a reconduit l'enquête auprès d'un échantillon encore plus important pour aller voir dans le détail ce qui se passait, puis on en reparlera. Et là, non seulement on a vu de la fatigue, mais on a vu justement des comportements. Alors, on n'a pas appelé ça de retrait de l'information, parce que justement, il y a plusieurs territoires d'exode. On a appelé ça l'exode informationnel, qui était assez massif. C'est-à-dire que non seulement, et pour répondre à votre question, l'intérêt demeurait, mais ce que l'on voyait, c'était le nombre de canaux qui étaient fréquentés, l'intensité de fréquentation, le fait d'en parler autour de soi, le fait de commenter l'information, le fait de payer aussi pour de l'information, tout ça, en fait, diminuait.
Est en recul.
Ouais, tout ça est en recul. Et donc, ça nous a semblé assez marquant et assez massif pour appeler ça exode informationnel.
Mais il se fait où le lien de cause à effet? Est-ce qu'il y a la fatigue informationnelle, donc on suit moins l'actualité ou on suit moins l'actualité et par conséquent cela génère la fatigue informationnelle. Qui de l'œuf et qui de la poule ?
Alors non, c'est plutôt... Alors même s'il n'y a pas que la fatigue informationnelle, c'est-à-dire qu'on voit la fatigue informationnelle, si vous voulez, alors on a agrégé ça dans cet indicateur de fatigue informationnelle, ça dit en fait une information qu'on ne parvient plus à métaboliser en ouais. connaissance, en opinion, ça dit un flux d'informations dans lequel on est pris et avoir le sentiment en fait que c'est beaucoup d'informations, mais toujours les mêmes informations, ouais. qu'à la fin d'une journée, on n'a rien retenu, qu'on n'est pas capable de hiérarchiser l'information. Et en fait, ça dit aussi, et un peu pour tout le monde, c'est-à-dire que l'information qui est censée nous incapaciter, c'est-à-dire justement nous donner cette capacité à nous projeter dans l'avenir, à comprendre le monde dans lequel on vit, justement à nous faire une opinion, à transformer ça en action, et ben au contraire de nous incapaciter, elle nous décapacite. Mmh. Pour certains, ça produit de la fatigue parce que c'est beaucoup de stress d'essayer de continuer à s'informer. Et puis pour d'autres, ça provoque du retrait. Alors il y a différents groupes hein, de Français. Pour certains, ben, ce qu'ils font face à ça, c'est qu'ils se retirent et qui reviennent à leur vie normale. Enfin, ouais. Et c'est pas tellement qu'ils se replient et qu'ils n'en ont rien à faire.
Qu'on appelle juste... les détox digitales.
Ouais, mais ils se préservent, en
ouais.
fait.
Ouais.
Et puis il y en a d'autres qui vont vers d'autres types d'informations, vers du divertissement, vers d'autres choses, en fait, par rapport à tout ça.
Avant de distribuer la parole, vous diriez que cette fatigue informationnelle, qu'est-ce qui ressort des deux études entre 2022 et 2024 ? Elle est en hausse ?
Alors, la fatigue, en fait, entre 2022 et 2024, c'est stable.
Ouais.
La fatigue est stable, c'est toujours près de 53-54% en 2024. Ce qui augmente, ou plutôt ce qui se produit, c'est le retrait dont je vous parlais,
ouais.
entre 2022 et 2024. À telle enseigne que, si vous voulez, l'enquête en 2024, on l'a faite au printemps, juste avant que, boum, il y ait la dissolution, les législatives, ouais. et on s'est dit, ah, voilà, peut-être que ça va être de nature, peut-être qu'on était en train d'analyser nos résultats et peut-être que ça va changer nos résultats. Donc on a refait un terrain en septembre parce qu'on s'est dit quand il y a des élections, ça peut mobiliser. Mais en fait, c'était encore pire.
Ouais.
Et ça, on l'avait vu parce que, par exemple, au moment de l'élection présidentielle ou au moment du... Les gens nous disaient, moi là, je me retire de l'information. Alors même qu'une élection présidentielle, c'est le moment où il y a un grand débat public... Où en fait il faudrait, enfin tout le monde serait, tout le monde est intéressé à participer à ce grand débat. Ben, au lieu de ça, en fait, il y a beaucoup de Français qui s'en sont retirés parce que c'était trop agressif et parce que justement ça leur permettait pas, ça les aidait pas vraiment dans le choix qu'ils allaient pouvoir faire pour l'élection.
Alors vous avez soulevé pas mal de points là liés à cette question d'y a-t-il une fatigue informationnelle et notamment cette question, évidemment, c'est une conséquence de la fatigue informationnelle, le retrait des infos, mais évidemment ce retrait, cette fatigue informationnelle, elle vient parce que, et c'est un autre point que vous avez soulevé, il y a sans doute trop d'infos, en tout cas le cerveau humain est confronté à énormément d'informations avec les réseaux sociaux évidemment qui renforcent encore plus cette surabondance d'informations. Anne Cordier, vous qui êtes professeur des universités en sciences de l'information et de la communication, que vous disent les étudiants auxquels vous donnez des enseignements? Est-ce qu'eux, ils ont le sentiment d'avoir trop d'infos ? Est-ce qu'ils ressentent une fatigue informationnelle ?
Alors, je vais vous parler à la fois en tant qu'enseignante donc à l'université et en tant que chercheuse auprès des plus jeunes, parce que je pense que c'est très important aussi de mesurer l'empant de cette question sur les différents types de publics. Alors, mes étudiants, comme vous dites, évidemment, ils en parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup de la fatigue informationnelle et beaucoup d'un sentiment puissant, en fait, d'impuissance. C'est-à-dire que, finalement, ils donnent à l'information son sens le plus strict, c'est-à-dire que l'information, normalement, elle est là pour nous aider à penser le monde et aussi à agir dans le monde. Et en réalité, ils sont nombreux, elles sont nombreuses à souligner le fait qu'ils sont bombardés, c'est souvent leur mot, d'informations, mais d'informations qui ne leur donnent pas nécessairement de pistes pour agir.
Ouais.
Et bon, là, je ne vais pas aller sur les plates-bandes de Fabien après, mais par exemple, c'est en ça qu'il cite beaucoup les étudiants des médias, notamment 2050 Nao, qui sont des médias qui, en fait, relèvent de ce qu'on appelle aujourd'hui le journalisme de solution et qui les aident, en fait, un peu à sortir de ce sentiment d'être impuissant.
Mmh.
Après, il faut s'intéresser aussi aux plus jeunes, hein, aux adolescents et aux enfants, moi, avec lesquels j'enquête très, très régulièrement, enfin toutes les semaines concrètement. Et eux aussi, et ça, c'est très frappant, dès le plus jeune âge, évoquent une fatigue informationnelle. Et là, je vous parle même d'enfants qui ont 7 ans ou 8 ans. Et ça doit aussi nous interroger, nous, en tant qu'adultes, c'est-à-dire à la fois, évidemment, sur la production d'informations et les réseaux, les différents canaux d'accès à l'information, mais aussi sur la manière dont nous, en tant qu'adultes, on les accompagne face à l'information pour que, à ce point et à un âge aussi jeune, ils aient déjà le sentiment d'une saturation.
Ça pose la question, effectivement, de est-ce que c'est pas trop tôt, 7-8 ans, pour être confronté à l'actualité ? Quelle actualité ?
Ben voilà, alors merci, parce que c'est ce que j'allais vous dire. La vraie question, c'est de quelle actu on parle, en fait. Moi, j'ai souvent le sentiment, quand je vois avec les plus jeunes, que finalement, on leur demande de retirer leurs lunettes d'enfant pour regarder le monde et de regarder le monde avec nos lunettes d'adultes. Et donc, en fait, on les confronte, même nous en tant qu'adultes, hein, je pense aussi aux professionnels de l'info, on les confronte en fait à des informations qui ne sont pas des informations à hauteur d'enfants ou à hauteur d'adolescents. Et donc, ça rend l'information d'autant plus anxiogène qu'elle paraît effectivement impossible à prendre en main, à prendre en charge.
Fabien Verceau, comment est né 2050Now, ce média donc 100% numérique sur les enjeux environnementaux qui propose des solutions positives?
Alors, on est né il y a un an. On est une entreprise à mission, un média 100% numérique du groupe Les Écoles Parisiens. Et effectivement, notre volonté, c'était de traiter l'actualité environnementale un petit peu différemment, d'essayer d'accompagner les Françaises et les Français dans leur transition écologique, comme l'a dit Anne, avec le prisme du journalisme de solution. Donc, essayer de... notre rédactrice en chef, Aude Baron, elle résume souvent notre ligne éditoriale avec un triptyque compréhension, solution, action. Donc on essaye de vulgariser la science, les grands enjeux environnementaux, le plus possible avec des scientifiques. On part à la rencontre de personnes inspirantes qui cherchent des solutions aux différentes crises environnementales. Et puis derrière, on essaye d'inciter et de montrer à notre public comment ils peuvent passer à l'action dans leur vie professionnelle et leur vie quotidienne.
Oui, parce que Il y a 70% des Français qui ont le sentiment de subir l'information que de la choisir. Ça a été c'est un peu le point de départ de votre démarche.
C'est un peu le point de départ de se dire, en tout cas à une actualité environnementale qui peut être très démoralisante, en fait, où on retrouve ce sentiment d'impuissance que vous évoquiez. Comment faire pour... redonner le goût de s'y intéresser et puis d'agir, parce que c'est un enjeu vital. Et on s'est demandé comment essayer de rendre l'actualité un petit peu plus environnementale, un peu plus concernante. Donc on va parler un petit peu des sujets aussi de la vie quotidienne. Et puis on va aussi essayer de le faire avec un ton qui est quand même optimiste, en tout cas sympathique. On utilise aussi de l'humour, hein, même si c'est pas drôle en soi, hein, la crise environnementale.
Vous acceptez que l'actualité environnementale elle puisse être dure aussi ? Est-ce que vous la traitez dans ces cas-là ? Parce que la transition écologique...
Bien sûr. On part toujours du constat scientifique, de réalité scientifique. On fait des vidéos sur les inondations, on fait des vidéos sur sur des pénuries, sur des menaces futures, des problèmes actuels. Mais derrière, on essaye de ne pas être démoralisateur. L'objectif, c'est qu'à la fin d'une vidéo ou à la fin de la newsletter, les personnes qui consommaient nos contenus se disent je peux pas tout faire tout seul, mais peut-être que moi je peux faire évoluer ça, je peux peut-être changer ça. Ah tiens, j'ai compris ça, donc je vais voir désormais l'actualité un peu différemment, sous ce prisme peut-être un petit peu de l'écologie.
Anne Cordier, est-ce que c'est nécessaire malgré tout de devoir agir ? Est-ce que ce sentiment, qu'est-ce qui traduit ce sentiment finalement d'impuissance de la jeune génération face à l'actualité ? Parce que on peut aussi accepter de ne pas pouvoir avoir une possibilité d'action face à ce qui se passe dans le monde. C'est aussi le lot de l'actualité, non ?
Tout à fait. Alors, on peut tout à fait accepter, et il le faut d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir leur expliquer ce sur quoi, malheureusement, à leur échelle, ils ne peuvent pas agir. Hein. C'est notamment, par exemple, le cas là, des enfants les plus jeunes ou des collégiens à qui on explique et à qui on passe du temps à dire « mais la guerre, il faut juste que tu comprennes En fait, ce qui se passe, mais évidemment et malheureusement, toi, tu n'as pas non plus le super pouvoir de l'arrêter. Mais le problème qu'ils ont, c'est le sentiment de n'avoir que des informations qui ne leur permettent pas d'agir. Or, il y a quand même des petits éléments, il y a des petites choses, et puis des fois, il y a même des grands gestes hein, qui peuvent leur donner du coup un sentiment d'action. Et très 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 concrètement, hein, par exemple, aussi. Des lycéennes l'année dernière rencontrées donc sur le terrain dans un lycée des Hauts-de-France me racontaient comment le fait de suivre et de s'informer avec des créateurs et créatrices de contenu et avec et sur des comptes associatifs à propos des violences sexistes et sexuelles leur donnait en fait le sentiment très concret au quotidien de savoir lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans la classe, au lycée, mais aussi au sein de la famille. Enfin, donc, c'est l'information à différentes échelles, c'est l'actu à différentes échelles qu'il faut envisager. Et oui, il y a de l'actualité sur laquelle on peut, en fait, avoir une prise.
On peut avoir une prise. Genaël Gaud, cependant, quel lien entre l'actualité d'aujourd'hui et cette fatigue informationnelle? Est-ce que j'ai débuté l'émission en évoquant les guerres qui se poursuivent à Gaza et en Ukraine, le début de mandat de Donald Trump? Est-ce que ça renforce la fatigue informationnelle?
Alors, évidemment, la nature de l'information, en fait, il y a un espace-temps qui a changé, qui fait que c'est plus compliqué, en fait, parce que à la fois, le temps, on l'a dit, il y a une accélération des rythmes sociaux, il y a une accélération aussi des catastrophes, si l'on parle du côté écologique, il y a une accélération, en fait, de l'actualité, pas une journée sans... Et ça fait partie, en fait, aussi de cette captation de l'attention que de la faire rebondir tout le temps. Il y a du sans précédent tous les jours, du réellement sans précédent ou du faux sans précédent, mais en fait, on vous abreuve de sans précédent. Et c'est vrai qu'il y a cette temporalité-là alliée aussi à l'espace-temps, l'espace. On est maintenant très au courant et de plus en plus au courant et en temps réel de ce qui se passe à l'au bout de la planète. Donc tout ça crée un nouvel espace-temps dans lequel, effectivement, il faut pouvoir se poser pour digérer un peu cette information. Mais encore une fois, l'espèce de démagogie cognitive de nombre de médias fait qu'il n'y a pas l'espace du tout de penser. Si vous voulez, ça fait partie aussi du notre façon de penser, comme on le sait maintenant grâce à des travaux, par exemple, de Daniel Kahneman dans les années 90, on a deux systèmes de notre pensée. Un système 1 qui est très émotionnel, très réactif, et un système 2 qui est beaucoup plus réflexif et beaucoup plus posé. Pour pouvoir comprendre et pour pouvoir se projeter dans une opinion ou dans une action, il faut que les deux, en fait, fonctionnent ensemble. Mais aujourd'hui, beaucoup d'informations, parce qu'il y a aussi de la concurrence économique du côté des médias, fonctionnent vraiment en sollicitant et en sursollicitant notre système 1, celui qui est réactif, celui qui est émotionnel. Et ça fatigue beaucoup, parce qu'en fait, ça va capter votre attention un instant, mais c'est pas durable comme information, parce que vous n'en faites rien. Et on le voit, en fait, dans notre étude, il y a plus d'un Français sur deux qui nous dit qu'il peut pas s'empêcher de cliquer quand il y a quelque chose dont il sait très bien que ça va pas rien lui apporter, mais il peut pas s'empêcher de cliquer. On voit très bien aussi que de la même façon, il y a presque 60% des Français qui pratiquent, et vous le voyez si vous prenez les transports en commun, ce qu'on appelle le binge-scrolling, c'est-à-dire qui enchaînent des vidéos, qui ne s'arrêtent jamais, et puis qui passent beaucoup plus de temps que ce qu'ils pensaient. Et c'est 77% des plus jeunes. Donc là, on voit bien qu'aussi, il y a une forme de manipulation quand même de notre attention, et qui n'est pas du tout propice à activer justement cette part de notre cerveau qui a besoin d'un peu plus de temps, qui a besoin d'un peu plus de réflexion pour se faire une opinion, parce qu'avant même de passer à l'action, il faut pouvoir comprendre et se faire une opinion.
Et il y a un brouillage entre surtout l'information et le reste, parce que là vous évoquez notamment ce qui ressort des fils infos des réseaux sociaux. On est confronté parfois à des infos qu'on n'a pas choisies, on veut peut-être aller sur des réseaux sociaux comme un journal. Et on est, il y a aussi ce sentiment qui émerge de plus en plus d'être confronté à des infos. Avant, si on allume la radio, si on ouvre un journal, on décide d'être confronté à l'info.
C'est-à-dire qu'avant, il y avait effectivement, il y avait à la fois un début, une fin dans l'information, un début, une fin dans un journal, un début, une fin dans un JT. Et là, c'est un flux continu, en fait, les réseaux sociaux.
Et ça favorise la fatigue informationnelle.
Et ça favorise évidemment la fatigue informationnelle. Donc, il n'y a pas ça, il n'y a pas non plus les mêmes rituels. C'est-à-dire le journal, justement, non seulement il y avait un début, une fin, mais le journal du matin ou le JT à 20h ou des choses comme ça. Les rituels aussi ont explosé. Donc, ce qui rendait un peu et ce qui permettait aussi d'avoir ces rendez-vous avec l'information, bah, ont explosé au profit d'un flux où vous avez raison. Mmh. C'est-à-dire que ça se mélange entre de l'actualité, mais aussi du divertissement, mais aussi de la publicité, mais aussi etc. Et donc, tout ça fait que, effectivement, c'est très très fatigant.
Et vous préparez, ce sera ma dernière question avant de passer à la seconde partie du débat, mais vous m'avez dit que vous prépariez une étude européenne sur cette question de la fatigue informationnelle. Est-ce qu'on a des éléments de comparaison, parce qu'on parle de la France?
Alors là, moi, je n'en ai pas et j'aimerais bien en avoir parce que, en effet, je pense qu'il y a certains facteurs comme justement les réseaux sociaux et leur usage ou l'économie des médias qui sont communs à bien des pays. Après, ce qui peut être intéressant, enfin, de voir, c'est des différences sur ce que cela produit. C'est-à-dire en France, il y a un débat public, il y a une culture du débat public dont les médias sont très évidemment partie prenante. Et on a toujours besoin de cette discussion, de cette dispute au sens presque noble du terme. Hein. Et donc, est-ce que ça a une action? Parce qu'on voit bien que c'est très corrélé, par exemple, la fatigue. Les plus fatigués sont ceux qui estiment que la démocratie fonctionne le moins bien. Donc, il y a un moment donné, en fait, qu'est-ce que ça va générer? Et est-ce que dans notre pays, c'est pire qu'ailleurs? Ou est-ce qu'on le retrouve ailleurs et pourquoi?
Quel lien entre fatigue informationnelle et fatigue démocratique, notamment?
Exactement.
Ils sont des millions à faire leur bagage, à fuir massivement les conditions difficiles d'un territoire devenu hostile, non pas une région ou un pays, mais un écosystème médiatique saturé d'informations répétitives, anxiogènes et conflictuelles. C'est ce qu'on peut lire dans cette étude que vous avez publiée, Genaël Gaud, étude de la Fondation Jean Jaurès, Arte et l'Obsoco, consacrée à l'exode informationnel des Français. Genaël Gaud, directrice générale de l'Obsoco, co-autrice de « Quand l'info épuise » et membre de la Fondation Jean Jaurès. Fabien Verceau, journaliste au magazine 2050 Now, média 100% numérique sur les enjeux environnementaux qui propose des solutions positives. Et Anne Cordier, professeure des universités en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine, sont mes trois invités pour essayer de répondre à cette question. Est-ce qu'il y a une fatigue informationnelle? Bien oui, semble-t-il. C'est ce qui est émergé de la première partie de ce débat. Anne Cordier, maintenant, je voudrais vous poser la question de quelles sont les conséquences de cette fatigue informationnelle? Quels sont les dangers? Est-ce qu'il y a des dangers d'une fatigue informationnelle pour une société? Est-ce que ça ouvre la porte aux fausses informations? Ça accroît la défiance à l'égard des journalistes?
Alors, il y a un vrai danger qui est celui de la baisse de la vigilance informationnelle. C'est-à-dire que ce défilement morbide, hein, on appelle ça le doom scrolling, le défilement morbide, par exemple, le fait de scroller sur les écrans, ou même le fait d'être tout simplement en fait, hein, confronté à cette masse d'informations, fait que nécessairement, par saturation, au bout d'un moment, l'individu, quel que soit son âge et quelle que soit sa spécialité, hein, va en fait un peu se mettre hors connexion en termes de vigilance informationnelle. Donc ça, c'est un vrai danger. Parce que à partir de ce moment-là, évidemment, je distingue plus les types d'informations, je ne distingue plus les types de sources, je prends plus forcément de bonnes décisions et éventuellement, je vais même rediffuser sans faire attention une information qui est pas bonne. Il y a un autre risque, risque et qui pour moi est vraiment important, c'est la perte de plaisir. C'est-à-dire que s'informer, c'est une chance. C'est une chance d'avoir accès à une grande diversité d'informations dans une société. Parce que ben, ça veut dire qu'on a aussi des journalistes et des médiateurs qui ont le droit de diffuser de l'information et qui font leur travail de qualité. Et le problème, c'est que ben, on n'en profite pas par effet de saturation et que on peut perdre potentiellement le plaisir de s'informer. Et le plaisir de s'informer, c'est quand même le levier principal qui va conduire au fait de s'informer.
Alors, il y a 8 Français sur 10 qui ont un sentiment de saturation par rapport à l'information. Et je vais citer, parce qu'on n'a pas de témoignage directement, Jonathan, ça c'est un témoignage recueilli dans Le Point, qui régulièrement se coupe de l'actualité, c'est ce que vous évoquiez, Genaël Gaud. C'est comme une mauvaise série dont on n'arriverait pas à décrocher un épisode, puis un autre et encore un autre. On scrolle, on lit, on écoute, on regarde tout. À la fin, on ne sait plus si on vit dans le réel ou dans un film d'horreur. Alors, pour éviter d'être déprimé, on coupe. Fin de citation. Fabien Versos, est-ce que ça vous inquiète? Vous qui êtes, encore une fois, journaliste au magazine 2050 Now, donc qui propose des solutions positives. La fatigue informationnelle, cette réaction à l'actualité, ce trop-plein d'informations, est-ce que ça vous inquiète?
Ça m'inquiète, bien sûr, et c'est une des raisons aussi de la création de notre média. Je pense que la fatigue, elle est évidemment liée à l'abondance d'informations, mais elle est aussi liée à notre passivité face à ces informations. Et c'est ce que vous racontiez sur ce défilement continu sur les réseaux sociaux, notamment. Je parle aussi de.
Mais c'est
de
passivité
ce que je connais
ou c'est surplus d'informations? Parce qu'encore une fois, la passivité, est-ce qu'elle n'a pas toujours existé aussi face à une forme d'actualité?
Pas toujours. Il y avait des rendez-vous, comme vous le disiez tout à l'heure. Quand on choisit d'allumer sa télé, c'est un choix. Quand on achète le journal, c'est un choix. Quand on est sur les réseaux sociaux, on est passif. L'info se mélange effectivement à du contenu divertissant. On est presque surpris de voir de l'info arriver. Nous, ce qu'on essaye de faire pour lutter contre cette fatigue informationnelle, c'est déjà, par exemple, de privilégier la qualité à la quantité. On pourrait sortir 100 vidéos par semaine, on en sort 10. Le message qu'on veut faire passer à notre public, c'est quand on sollicite votre attention, c'est aussi un contrat de confiance avec lui, quand on sollicite votre attention, c'est pas pour vous faire perdre votre temps, c'est parce que vraiment, on juge que cette information-là, elle peut vous être utile, et en l'occurrence, pour réussir votre transition écologique. J'ai parlé des ressorts du journalisme de solutions tout à l'heure. L'idée, c'est qu'à la fin d'avoir consommé notre contenu, le spectateur il soit pas juste choqué ou un peu tétanisé par ce système 1 dont vous parliez. C'est qu'on puisse l'instruire, l'encourager, l'inspirer, le motiver à agir. Et puis, on parlait donc là de comment finalement redonner un petit peu de pouvoir d'action quand on consomme les médias. Nous, par exemple, on est aussi sur Instagram et TikTok, mais qui privilégient davantage des formats courts, on est passif. On investit un peu davantage sur YouTube, qui est une plateforme où typiquement, certes, il y a des recommandations, certes, il y a un algorithme. Mais en fait, pour regarder une vidéo, en principe, en général, on clique sur la vidéo pour la regarder. Elle ne vient moins à nous. Et ça, c'est une plateforme où on peut prendre le temps d'informer. Et toutes les semaines, on va publier une vidéo de 10 à 20 minutes pour justement prendre le temps d'informer vraiment sur ces enjeux environnementaux-là. Et on a juste une statistique qui prouve que le public, lui, il veut aussi parfois prendre le temps de s'informer et être acteur. On a un taux de rétention sur nos vidéos longues de 50%. Ça veut dire qu'en moyenne, si notre vidéo elle fait 20 minutes, les gens ils vont en regarder au moins 10. Et au bout de 10 minutes, eh ben, c'est suffisant pour comprendre des grands enjeux liés à l'environnement.
Guénalgo, il nous reste une minute. Est-ce que le journaliste doit se réinventer? Ou est-ce que c'est important que continuent de coexister les modèles classiques d'information? Ou à quel point est-ce qu'il faut s'inspirer, par exemple, de ce que nous propose Fabien Verceau?
Non, je pense que oui, le journalisme doit, dans un écosystème qui a changé, je pense qu'il faut bien se rendre compte que les Français ne se détournent pas de l'information, mais ce qu'ils veulent, c'est une information qui les incapacite, qui leur donne la capacité à minima de se faire une opinion et évidemment aller plus loin le cas échéant. Mais je pense qu'il y a pas mal de vitalité, je pense qu'il y a beaucoup de journalistes et beaucoup de médias pour qui c'est justement une façon de retrouver aussi le sens de leur métier dans un écosystème qui a tellement tout bouleversé, qui a mis en péril aussi ce rôle crucial qui est celui du journaliste. Donc je pense qu'au contraire, enfin, là, il y a pas mal d'anticorps qui agissent et c'est très bien.
Donc, pour répondre à la question, oui, il y a une fatigue informationnelle, mais parce qu'il y a une impuissance face à une actualité toujours plus anxiogène et qui est toujours plus importante, notamment via les réseaux sociaux. Et donc, comment redonner du sens? Eh bien, en s'engageant de manière nouvelle. Et notamment, c'est ce que vous proposez, Fabien Verceau. Merci beaucoup, Guénalgo et Anne Cordier, qui étaient mes trois invités ce soir. Merci à Hélène Avril à la réalisation de ce débat du jour et Florence Ponce à la préparation.
RFI.
Allez, 18h58 ici à Paris. Dans une minute, ce sera le grand journal du soir avec Adrien Delgrange et le dossier qui nous emmènera à Riyad. On va évoquer la reprise des pourparlers sur l'Ukraine entre la Russie et les États-Unis. Dans 30 minutes, ce sera Afrique Soir, la première édition de ce lundi avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Allez, coup d'œil au programme et à la une, le rapt de deux journalistes ce matin à Ouagadougou, la capitale du Burkina.
Oui, il s'agit des présidents et vice-présidents de l'association des journalistes burkinabés. La semaine dernière, déjà, des membres de la formation politique Sens avaient également subi le même sort. Tous ces enlèvements concernent des personnalités perçues comme des voix critiques du chef de la junte au pouvoir.
Et au sommaire également, cette annonce de la présidence angolaise médiatrice dans le conflit à l'est de la RDC.
Oui, après deux ans passés à jouer les intermédiaires entre Kinshasa et Kigali, la présidence angolaise met fin à son rôle de médiateur. Le chef de l'État angolais, João Lourenço, qui a pris la présidence de l'Union africaine il y a deux mois, estime qu'il est temps de se recentrer sur les priorités continentales.
Eh bien, merci. Voilà une bonne décision. Merci beaucoup, Zéphirin. On vous retrouve dans 30 minutes sur RFI.